France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Pour ce dernier volet de la semaine, nous allons nous extraire du département du Doubs pour appeler Linda, paysanne de nouvelle génération installée dans le Calvados et co-auteur du guide La Microferme Familiale aux éditions Rustica. Ensuite, tout en restant attaché au travail de la terre, c'est à Toulouse que nous nous rendrons pour découvrir une start-up qui met au point une première gamme de robots pour la viticulture avant une extension probable à l'agriculture. Elle s'appelle Agrin Culture.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Linda Bédouet, bonjour.
Bonjour.
Linda, vous vous présentez comme néo-paysanne. Tiens, j'avais entendu parler des néo-ruraux, mais pas des néo-paysans. On va dire de la nouvelle génération plus orientée vers une agroécologie. Et vous avez signé avec Stéphanie Maubé et Claire Mauquier le guide de la micro-ferme familiale « Quitter la ville pour la campagne » aux éditions Rustica. Alors, vous partez chacune de votre parcours, on parle du vôtre, Linda, des études de commerce, un travail dans l'immobilier, et puis vous changez de cap et vous vous formez à la fameuse ferme que l'on connaît du Bec-et-Loin.
Ça a été mon premier pas de transition.
Qu'est-ce qui vous a porté vers ce franchissement de cap?
Une envie d'agir, une envie de développer en fait ce que j'avais au fond de moi et j'ai décidé de me faire confiance. Mais quand j'étais petite, moi je rêvais d'avoir une ferme avec des animaux, mais je viens de la banlieue parisienne, j'ai fait des études de commerce et je travaillais en ville. Et à 30 ans, je me suis dit bon, si je le fais pas là, je le ferai pas en fait. Et j'ai rencontré les bonnes personnes et il y a eu de très belles opportunités qui se sont présentées à moi et voilà. Et je suis là maintenant, ça fait 10 ans que j'ai les mains dans la terre.
Et vous avez donc créé les jardins, on dit Eden?
Ouais, les jardins d'Eden, c'est mon fils.
Mais alors c'est pas le paradis, hein, ça s'écrit H-A-Y-D-E-N, mais vous allez me dire c'est le paradis. Exactement. Quand même. Nous sommes dans Calvados. Vous avez quand même pu faire l'acquisition de 3,7 hectares de terre?
Oui, parce que c'était un lot avec une maison qui était à vendre depuis 2 ans. Et on a encore des opportunités comme ça. Alors on n'est pas au bord de la mer, hein, on est au sud de Calvados, on est dans les terres. Et j'ai eu la chance de trouver cette opportunité-là de pouvoir bénéficier d'un terrain suffisamment grand en fait pour faire plusieurs zones de biodiversité et des projets agroécologiques intéressants.
Qu'est-ce que vous produisez dans les jardins d'Eden?
Alors ça fait 2 ans maintenant qu'on est arrivé ici, ça fait pas long, mais on plante déjà beaucoup d'arbres fruitiers, une micro-forêt, une forêt nourrissante. Et puis on a installé des serres pour des légumes, des petits fruits, des aromatiques. On essaie d'être autonome sur tout ce qui est produit frais.
Alors le guide de la micro-ferme familiale est très pratique, mais on commence par la base, c'est-à-dire qui peut le faire, qui peut porter un projet. On va dire globalement tout le monde à partir du moment où on a des convictions, mais s'installer où, c'est-à-dire choisir quelle région?
Quand on n'a pas encore de pont avec la campagne, on ne sait pas forcément vers où aller. Moi, j'ai eu la chance de démarrer ma formation en Normandie, ce qui m'a donné un premier pas en Normandie, et de développer une première ferme maraîchère à temps plein en Haute-Normandie. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert cette région-là. Et puis, j'en parle un peu dans le guide, mais c'est pour faire la promotion spécifiquement de la Normandie. Mais entre la Bretagne et la Normandie, c'est vrai qu'on réunit des conditions un petit peu plus optimistes par rapport aux prévisions du bouleversement climatique. On a encore une région avec de l'eau, du bocage, donc on a encore de la biodiversité présente. Donc c'est des bons points en fait pour s'installer. Mais après, il y a plein de magnifiques régions en France qui offrent des opportunités.
Alors il faut trouver parfois des aides et surtout trouver des moyens.
Alors ça aide tout forcément quand on a des moyens financiers. Après, il y a des structures qui peuvent accompagner, comme Terre de Liens. Parfois, on a des reprises en location aussi, donc on peut parfois repartir sur de la location, mais avoir un jardin et être dans l'autonomie. Il y a plusieurs façons d'envisager son projet.
Oui. Puis ensuite, il faut faire le choix des cultures.
Et ça, oui. Alors, en fonction de ce qu'on aime, parce que c'est ça aussi. Nous, on a choisi d'avoir un peu d'élevage et des légumes du soleil. Bon, il y a des personnes qui vont être plutôt sur vouloir développer des légumineuses pour être vraiment végétarien. Et donc tout ça s'étudie en amont pour faire son petit planning de culture.
Vous dites une chose essentielle, Linda, dans le livre, si on ne peut pas commencer sans avoir créé son réseau.
C'est le lien. Le lien est essentiel. On ne fait pas grand-chose seul. On avance beaucoup plus loin à plusieurs. Et donc, quand on arrive en ruralité, la première des choses, c'est d'aller voir les autres, de se présenter humblement et d'expliquer son projet. Bon, nous, ici, on a été extrêmement bien reçus. Une grande ouverture d'esprit, même des agriculteurs dits conventionnels. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller rencontrer l'autre.
Et vous mettez en garde aussi le lecteur sur les erreurs à ne pas faire. Alors, elles sont multiples, mais s'il y en a une vraiment qu'il faut éviter à tout prix.
L'enfermement, je pense que c'est l'erreur à éviter à tout prix, c'est de penser qu'on va être dans l'autarcie et qu'on va être heureux comme ça. Je pense que ça ne peut fonctionner, ce genre de système agroécologique, qu'avec l'entraide, l'échange et la collaboration avec son écosystème local aussi, son territoire. Donc je pense que l'erreur, c'est de mettre la barre peut-être techniquement trop haut au début et de se dire « je vais me débrouiller tout seul ». Et ça peut être aussi épuisant de cultiver, d'être à 100% dans son jardin. Et c'est bien de savoir en sortir aussi et de prendre du recul et d'aller voir les autres.
Le guide de la micro-ferme familiale, c'est aux éditions Rustica. Et on vous donne aussi le lien à la page Facebook des Jardins d'Éden, en référence au prénom du fiston de Linda. Merci Linda.
Merci beaucoup. Bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Je reviens vers le Doubs par le truchement du message envoyé par Sylvette, qui rend grâce à une habitante de Besançon. Elle s'appelle Tanja Nikolov. Tanja est macédonienne et coordinatrice de l'association Miroirs de Femmes. Les Miroirs de Femmes sont les reflets du monde, portés par des femmes d'origine, de culture, de milieux, de générations différentes. Des échanges autour des langues, des ateliers de cuisine du monde font le lien entre ces personnes qui souffrent parfois de solitude. Et surtout, l'association est une solution à la vie difficile des quartiers urbains comme celui de la Planoise à Besançon, où les descentes de police ne manquent pas. Le quartier compte entre 60 et 70 nationalités différentes et Miroir de Femmes est l'exemple même de la solidarité par l'action. Et l'association est née en 2013 suite à l'obtention du premier prix du concours Talent des cités. Il y a une page Facebook Miroir de Femmes, miroir au pluriel. Et puis, je vous fais part d'une initiative qui est en train de voir le jour en France après avoir pris corps au Royaume-Uni. C'est le Park Run. Thierry, qui dirige le Park Run de Fontainebleau, est à l'origine de cette info. Il s'agit de footing organisé par des bénévoles, en général le samedi matin, donc demain matin vous pouvez y aller, dans un parc public ou dans un espace ouvert. L'idée est d'encourager un maximum de monde à faire du sport, mais au-delà de cela, le but est de vivre une expérience collective, inclusive et accueillante, dit-on. Donc ici, pas de compétition, ni de premier, ni de dernier, puisque les marcheurs, les joggeurs et les spectateurs sont les bienvenus. Sur le site national, vous êtes invité, par exemple, à remplir un formulaire d'inscription, c'est gratuit évidemment, et puis d'imprimer un code barre avant de rejoindre le groupe local près de chez vous. Le phénomène est pour l'instant très discret puisqu'il n'existe que 8 groupes enregistrés sur l'ensemble du territoire. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu du bien fondé de la démarche, le site parkrun.fr donne à lire des témoignages des premiers membres de cette communauté. Christophe Aubé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur d'Agreen Culture, une start-up toulousaine qui lance la commercialisation en ce moment de robots pour la viticulture, comme vous êtes à Toulouse. Claude Nougaro aurait dit « Christophe Aubé, c'est une aubaine pour une agriculture verte ».
Effectivement. En fait, on peut même le définir comme ce qui est autrefois le valet de ferme, l'homme à tout faire, celui à qui on donne des activités qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, mais qui sont terriblement importantes pour que ça tourne correctement dans la ferme. Mmh. Eh bien, la même chose. Aujourd'hui, on voit que pour maintenir des cultures, il faut les désherber. Et les désherber, aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui récupère cette activité. Et cette activité, elle est extrêmement chronophage, encore plus quand on décide d'abandonner ou de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Ouais. Et donc, ce robot va faire passer des heures et des heures dans les champs pour réaliser cette opération sans que ça prenne plus de temps pour l'agriculteur.
Avec quelle capacité de rendement ?
Alors, le rendement va dépendre de plein de critères. Est-ce que les vignes sont larges ? Est-ce que les vignes sont étroites ? Quelle opération on fait ? Parce qu'en fait, on voit bien que le désherbage, il y a énormément de techniques différentes pour le réaliser. Est-ce qu'on va faire du désherbage entre les rangs sur le rang ? Bon. En fait, la question en termes de rendement, et c'est une des premières questions que posent les agriculteurs, c'est « mais est-ce que ça va faire le même travail que mon tracteur ?»
Ben oui.
Et en fait, aujourd'hui, on ne cherche pas à concurrencer le tracteur sur une heure. parce qu'en fait, le robot, tel qu'il est conçu, il est autonome sur la journée entière. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que sur 24 heures, le robot réalise la même quantité de travail qu'un ouvrier agricole sur sa journée.
Il réveille les voisins la nuit, quand même ? Non.
Alors, c'est une très bonne question. On a effectivement un robot hybride, c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi bien sur de la batterie que sur un petit moteur diesel. Donc, c'est un tout petit moteur. Donc, oui, il peut faire un peu de bruit, mais ce qu'on implémente, c'est quand on passe à proximité des habitations, il passe en mode tout électrique. Et donc, respecter l'environnement, c'est aussi respecter les voisins. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'ils puissent passer en mode silencieux la nuit à proximité des habitations.
Vous êtes l'exemple même des entrepreneurs aujourd'hui audacieux et courageux, parce que vous êtes parti sur vos propres fonds avec, à vos côtés, 45 salariés.
Effectivement. Aujourd'hui, on est presque 45 collaborateurs. Et on a démarré sur nos fonds. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué par-dessus tout, parce que des sociétés qui, au bout de 4-5 ans, atteignent une cinquantaine de salariés, il en existe. En revanche, des sociétés qui travaillent dans le milieu industriel, qui atteignent ce niveau, il y en a quand même très peu. Le milieu industriel est un petit peu laissé de côté en France par les investisseurs. Et donc, oui, effectivement, c'est difficile de se lancer dans une activité industrielle en France, et qui plus est pour cette thématique de robotique. En revanche, et c'est la raison pour laquelle on existe encore et qu'on va continuer, c'est que il y a un vrai défi, et les agriculteurs en sont bien conscients, et c'est parce qu'ils sont convaincus par l'utilisation de notre produit qu'aujourd'hui on existe encore et qu'on va continuer à exister et à continuer à développer des solutions pour eux.
Oui, et pour créer ce type d'engin, vous faites appel à des savoir-faire étrangers et d'autres entreprises étrangères, ou tout est franco-français ?
Alors, la majorité du savoir-faire est franco-français, et c'est un peu notre grande joie et notre fierté. La majorité du savoir est même issue de l'aéronautique. On est à Toulouse.
Oui, vous êtes ingénieur aéronautique, hein, Christophe, j'ai oublié de le dire.
Effectivement, mes deux cofondateurs sont ingénieurs aéronautiques, et donc c'est vraiment ce savoir-faire qui est issu des systèmes de guidage et de positionnement qui sont développés pour l'aéronautique et par l'aéronautique, que l'on exploite. Et on est quand même sur des systèmes complexes. Quand on a plusieurs robots que l'on fait évoluer sur une parcelle, c'est exactement la même chose que quand on est sur un aéroport et qu'on doit gérer des avions qui doivent atterrir, qui doivent utiliser des endroits de déplacement commun, la piste, les abords des pistes. Et donc, on s'est inspiré de ce qui était fait dans l'aéronautique pour le déployer dans la robotique agricole.
Oui. On a parlé de la viticulture. Est-ce que ce robot s'adapte à d'autres types de cultures ?
Alors, la viticulture est effectivement une des premières cultures que l'on a ciblées avec le robot que l'on conçoit entièrement en interne. En revanche, on développe d'autres robots avec des partenaires industriels, des fleurons d'industrie comme la société Kuhn en Alsace, ou la société Pelinck qui est aussi dans la viticulture à côté d'Aix-en-Provence. Et avec ces robots-là, on a d'autres cibles. Et par exemple, avec la société Kuhn, la cible, c'est beaucoup plus la grande culture, la partie maïsiculture en premier lieu.
À suivre les développements de ces inventions et entre autres de ces robots. Bonne route, bonne chance pour la suite, Christophe, et merci.
Merci pour cette opportunité, à bientôt.
Je prends le temps de mentionner deux rendez-vous à Besançon. Le premier se tiendra demain au Parc Mico, sur l'initiative de l'association Vélo Besançon et Alternatiba Besançon. Il s'inscrit dans un mouvement national qui mobilise de plus en plus de personnes en faveur d'une grande place accordée au vélo dans les déplacements urbains. Le rendez-vous est donné à 10h30 demain matin pour une vélorution efficace. Le deuxième événement concerne le festival photographie de Besançon, Grain de Pixel. Il débute également demain pour durer jusqu'au 31 octobre, et ne lésine pas sur le nombre de photographes invités, ils sont au moins 50, et aussi sur les animations en tout genre, dont des masterclass et des ateliers techniques. L'invité d'honneur est Andrea Olga Montovani, qui est photo-reporter au New York Times et auteur d'un travail photographique sur la dernière forêt millénaire d'Europe qui est en Pologne. Elle animera une masterclass les 2 et 3 octobre. À noter aussi une grande exposition des photos de Laurent Michelot sur ses 10 ans de travail réalisé à Tchernobyl, grain-pixel.com. carnetcampagne.fr pour l'adresse. Merci à Joël Levert qui apportait du contenu au carnet cette semaine. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter, dont Anne-Laure Cochet, qui a donné aussi du son et du relief à ce carnet.